8h47, suite des matins sur France Culture avec la transition d'Hervé Gardette. Et ce matin, vous voulez nous parler de recyclage.
Oui, parce que vous avez souligné il y a quelques jours, voilà. Guillaume, ma propension à l'autocitation pour alimenter cette chronique.
Je l'attendais.
Je venais, vous souvenez, de remettre dans le circuit une histoire de sucre dans le café et les leçons à tirer du film Soleil Vert. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas tout suivi, je vous renvoie aux chroniques de la semaine du 24 août. Pour ma défense, souvenez-vous encore, j'ai prétexté un comportement économiquement vertueux, le recyclage. Pourquoi jeter à la poubelle une idée quand celle-ci peut resservir ?
C'est vrai ça.
Mais ce qui vaut pour les biens immatériels ne vaut pas forcément pour les produits manufacturés, car dans ce cas précis, si l'objectif affiché est bien de réduire la masse des déchets, la logique économique entre souvent en contradiction avec les impératifs environnementaux. Et c'est ce qui ressort à la lecture du livre de Flore Berlingen, Recyclage, le grand enfumage aux éditions de l'Échiquier. La directrice de l'association Zero Waste France, qui milite pour une réduction drastique des déchets, cette directrice s'y livre à un réquisitoire précis et documenté, non pas à l'égard du principe même du recyclage, mais de la façon dont il est instrumentalisé pour servir ce qu'il est censé combattre, le gaspillage. Alors pour bien comprendre ce paradoxe, il faut revenir une cinquantaine d'années en arrière, lorsque la consommation de produits manufacturés explose. Elle augmente d'autant plus que les produits sont conçus pour ne pas durer. C'est le début de l'ère du tout jetable. Résultat, en France, au cours des années 70 et 80, le nombre de décharges est multiplié par 5. Pour tenter de réduire l'empreinte de ces montagnes de déchets, les collectivités locales vont investir massivement dans la collecte et le traitement. Il faut acheter des camions, des containers, construire des centres de tri et payer le personnel pour faire fonctionner cette filière. Or, pour que ces investissements soient rentables, pour les amortir, il faut qu'ils tournent à plein régime. Plus il y a de déchets, plus cette activité est viable. On comprend mieux pourquoi, lors des débats l'an dernier autour de la loi sur l'économie circulaire, de nombreux élus locaux se sont opposés à un retour de la consigne. Ça mettait en péril l'organisation des activités de recyclage et donc une partie des investissements réalisés. Mais ce n'est pas le seul paradoxe lié à cette filière. Et là encore, c'est la logique économique qui dicte sa loi. D'abord, il ne suffit pas qu'un produit soit recyclable pour qu'il soit recyclé. Encore faut-il qu'il trouve preneur, qu'il y ait un marché. Ce n'est pas toujours le cas, tout dépend de son prix. Ainsi, la chute des cours du pétrole a-t-elle rendu plus attractives les résines neuves plutôt que les plastiques recyclés ? Par ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le recyclage est un processus complexe. La plupart des emballages composés de différents éléments ne sont pas directement recyclables. Il ne s'agit donc pas de faire du tri en gros, mais plutôt de la dentelle. Ça demande d'importants investissements, des technologies performantes. Or, comme l'explique Flore Berlingen, les nouveaux matériaux sont mis sur le marché avant que les conditions de leur recyclage soient réunies. Car, selon ces mêmes lois du marché, il faut d'abord un flux de matière suffisant pour que l'investissement soit considéré comme rentable. Là encore, on aboutit à ce paradoxe. Pour réduire le nombre de déchets, il faut d'abord en produire beaucoup. Alors, le plus gênant dans cette histoire, c'est que les principales responsables, à savoir les entreprises, ne participent que marginalement à cet effort. Certes, les industriels financent une partie de la collecte et du recyclage de leurs produits, mais comme le note la directrice de Zero Waste, cette contribution s'élève seulement à 1,2 milliard d'euros. Or, la gestion des déchets coûte environ 20 milliards d'euros par an, dont plus de 14 milliards pèsent sur le budget des collectivités locales. Autrement dit, le coût du traitement des déchets reste assumé par la société dans son ensemble. Vous payez donc deux fois, Guillaume, en tant que client et en tant que contribuable. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ordre de la logique économique, mais c'est un sacré tour de passe-passe.